Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Comment faire face à l'imprévu ? L'imprévu peut être synonyme donc de stress et d'inquiétude. Nul ne peut éviter les situations fortuites qui nous prennent par surprise, mais les surprises peuvent être délectables, pimenter et mettre du relief à nos routines, nous contraindre à sortir de ces zones de confort qui peuvent nous engourdir. Bref, accepter de vivre avec l'imprévu, c'est illuminer notre vie quotidienne. Nos invités vous délivreront des réflexions et des conseils avisés pour faire de l'inattendu un allié pour la vie.
En fait, s'il n'y avait aucune incertitude, il n'y aurait aucune liberté. Si tout était certain,
tout
serait prévisible. Ouais. Et on a du mal à vivre l'incertitude, évidemment, parce qu'on voudrait être rassuré. Mais ça irait mieux si on se disait que l'incertitude, c'est la condition normale, et que de temps en temps, on a des petites certitudes. Mais nous, on a été élevés dans l'autre sens. Comme si l'essentiel était certain et qu'il allait avoir des petits moments d'incertitude. Donc c'est plus facile de comprendre la relation entre incertitude et liberté lorsqu'on comprend que l'élément dans lequel nous habitons, c'est l'incertitude.
Le philosophe Charles Pépin sur France Bleu en mars 2021. Bonjour Philippe Gabillier.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychologie et de prospective à l'ESCP Business School. Alors après l'éloge de l'optimisme qui a connu un grand succès, vous publiez un éloge de l'inattendu, l'art de se laisser surprendre aux éditions Saint-Simon. Que pensez-vous, tiens, de ces propos de Charles Pépin ?
Je pense que Charles, sur ce plan-là, a raison, à condition quand même de bien comprendre que l'incertitude, c'est une idée, quoi. C'est un état d'esprit. Je trouve que ça manque de chair. Mmh. Ce qui est intéressant dans l'imprévu dont on parle aujourd'hui et dans l'inattendu, c'est qu'en fait, c'est l'incertitude devenant expérience. C'est véritablement la mise en expérience de l'incertitude. Ce sont des faits, des événements, et qui vont effectivement venir bousculer quelque chose en moi, pour le meilleur, pour le pire. Parfois, d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Mais effectivement, ce qui est sûr, en revanche, c'est que le cauchemar, probablement, serait de vivre une vie où tout serait totalement planifié et prévisible à l'avance. Et en plus, non seulement ça serait prévisible, mais ça se passerait comme ça a été prévu, ce qui serait l'horreur absolue.
Philippe Gabillier, quelle est votre définition de l'inattendu ?
Je dirais que l'inattendu, c'est en fait ce que l'on n'avait pas lieu d'attendre. C'est ce qui intervient contre toute attente, justement. C'est ce qui vient prendre par surprise les virtualités que je croyais avoir mises bien en ordre dans ma tête, qu'on les appelle d'ailleurs, le vocabulaire est très riche, hein, on a un vocabulaire à l'ère de la modernité extraordinaire, les projets, les plans, les perspectives, etc. On vit dans un univers effectivement où nos outils symboliques, nos outils totémiques de base, en tout dans le monde de l'entreprise, qui moi dans le monde que je connais bien, les outils totémiques c'est l'agenda, c'est le plan d'action et c'est Excel. Donc en fait, des objets qui pourraient nous laisser croire de façon magique que l'inattendu peut être maîtrisé, etc. Alors c'est effectivement pas du tout le cas. Et donc quand on dit que l'inattendu, c'est ce qu'on n'avait pas lieu d'attendre, c'est qu'en fait, ce qui est arrivé, si on avait annoncé que ça allait arriver, souvent autour de nous, les bons esprits auraient dit « mais enfin, tu plaisantes, c'est pas sérieux, c'est tellement improbable, très peu de chances que ça se passe comme ça ». Et justement, la caractéristique du réel, même dans nos vies, c'est que la plupart du temps, le réel, c'est effectivement de l'aléa qui vient perturber nos plans.
Exemple avec cet événement sans précédent qui nous est tombé dessus en mars 2020, le premier confinement, un événement qui nous a marqué à vie et qui a modifié en profondeur nos façons de vivre. C'est ce qu'on appelle un signe noir, selon l'essayiste et chercheur Nassim Nicolas Taleb. Le signe noir, c'est un événement imprévisible qui a une faible probabilité de se dérouler et qui a des conséquences considérables.
Et donc la troisième caractéristique est que en advenant, il modifie radicalement et pour longtemps la perception qu'on avait du monde dans lequel il est advenu. Donc si c'est aussi effectivement, on est de ce point de vue-là dans un signe noir. Si ce n'est que Nassim Taleb a souvent, en tout cas dans ses exemples, une conception justement très sombre du signe noir. Mais je pense qu'il peut y avoir des signes noirs qui sont en fait tout à fait lumineux parce que ils ont révélé des choses, ils ont accéléré des choses. Et je pense que souvent l'imprévu d'ailleurs, l'inattendu, a un je ne sais quoi d'ambigu. C'est-à-dire que par exemple la pandémie, bah, effectivement, c'est une catastrophe. Le nombre de gens qui aujourd'hui commencent à dire ça a été une catastrophe, mais je dois admettre que grâce à cette pandémie, j'ai pu inventer, créer, développer, vivre tel type de choses. Donc tout ça mérite d'être là aussi retravaillé au tamis de l'expérience vécue, quoi.
Christophe André.
Cet inattendu, il est intéressant à observer, à étudier, parce que, par exemple, pour les chercheurs en psychologie des émotions, ils nous disent qu'il y a une émotion, qui est l'émotion de réaction à l'inattendu, c'est la surprise. On oublie souvent la surprise dans la liste des émotions fondamentales. Pourtant, elle est une émotion fondamentale, puisqu'elle est accompagnée d'une mimique universellement reconnaissable. Et cette surprise, effectivement, elle met notre esprit et notre corps en éveil. Nous nous tournons vers ce qui vient de débouler dans nos vies. Et finalement, cette émotion de surprise et cet inattendu, on pourrait l'étudier comme on étudie les émotions. C'est-à-dire l'inattendu, aussi l'impact de l'inattendu et sa digestibilité dépend de deux choses, de sa valence, est-ce que c'est un inattendu positif ou négatif, bonne ou mauvaise surprise, et de son intensité, est-ce que c'est un petit événement ou est-ce que c'est quelque chose qui va ravager, bousculer, tout déplacer dans notre quotidien.
Philippe Gavillier. Et je pense que la notion de surprise est effectivement centrale dans cette affaire-là. La surprise étant en plus une émotion, mais là je parle sous le contrôle de Christophe André, est une émotion qui a une caractéristique, je trouve, il y a deux caractéristiques incroyables dans la surprise, c'est que d'abord c'est une émotion qui ne peut pas par définition durer. Autant on peut être triste longtemps, on peut être joyeux, mais être quelqu'un qui va être surpris longtemps, il y a un problème. Quoi. On peut être surpris, qu'est-ce que vous faites dans la vie, je suis surpris. Bon, un peu étonnant. Et surtout c'est une émotion, je trouve, extraordinaire, c'est un sas, la surprise. C'est-à-dire c'est une émotion qui ne prend sens qu'à partir de l'émotion qui la suit. C'est-à-dire qu'il y a des surprises qui vont me rendre joyeux, des surprises qu'il y a derrière, j'aurais peur, des surprises, je serais dégoûté derrière. Et donc c'est très intéressant cette notion de sas, comme si d'ailleurs l'inattendu aussi, d'un point de vue métaphorique, c'était inattendu et imprévu, sont peut-être aussi dans les vies, un sas pour quelque chose d'autre qu'on n'attendait pas.
Alors Philippe Gabillier, nous n'avons pas anticipé cette crise sanitaire, alors que nous passons notre vie à anticiper ce qui pourrait nous arriver dans notre vie personnelle, professionnelle, sociale, intime, on passe notre vie à anticiper, à planifier. Et là, cette crise sanitaire percute tout ça.
Oui, mais enfin, comment dire, celle-là, elle a été balèze, hein, la crise en question. Mais on a passé l'histoire de la civilisation, c'est l'histoire des surprises qu'on a eues. Personne n'a vu venir la peste, personne n'a vu venir la guerre de 14 s'est déclenchée sur un événement absolument ridicule d'un gars qui se fait dézinguer à Sarajevo, et tout ça va déclencher une conflagration mondiale. L'11 septembre, qui l'a vu venir, la crise de 2008. Alors après, si les bons esprits derrière vous diront oui, mais on aurait dû s'en douter. En fait, nous vivons dans l'espèce d'illusion de contrôle très souvent dans la civilisation, dans la modernité, d'un héritage de Descartes, il serait peut-être étonné qu'on héritait uniquement ça de lui, mais comme si bien vivre, c'est vivre, en tout cas dans les organisations, dans les États, c'est vivre avec le contrôle. Or, par définition, et tout le monde le sait, la plus grande surprise que puisse vous faire un plan, c'est de se dérouler comme prévu. Et donc, à partir de là, je dirais, l'aléa est quasiment une obligation. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que, heureusement qu'on a des plans, mine de rien. Parce que si on n'avait pas de plan, qu'est-ce qu'on ferait de l'aléa quand il arriverait? Donc, voilà. Mais en revanche, la réconciliation entre la planification et l'improvisation, pour moi, dans la vie en général, hein, c'est, je pense aussi, et dans la conduite des États, dans la conduite des affaires, c'est un des grands enjeux, je dirais, de l'esprit des temps à venir, me semble-t-il. Nous avons autour de nous des outils, nous avons des objets aujourd'hui magiques qui sont censés aussi nous donner ce sentiment, c'est pas toujours une réalité, c'est le sentiment du contrôle, parce que je pense que le sentiment de contrôle est un des éléments constitutifs de l'état d'esprit de la modernité, et que je crois que les événements nous forcent justement à penser différemment, et je crois que réapprendre pour le coup et se préparer mentalement en toute situation de la vie, des plus banales aux plus graves, à improviser, fait partie, se donner d'ailleurs le droit d'improviser, fait partie maintenant d'un état d'esprit de l'époque qui me semble pertinent et en plus créatif. Et puis par rapport à l'adaptation, juste pour terminer, moi ce qui m'a toujours embêté dans l'adaptation, vraiment, même philosophiquement, pour moi s'adapter c'est se soumettre. Effectivement, quand on dit aux gens d'ailleurs tu dois t'adapter, ben c'est soumets-toi à toi-même, soumets-toi à la société. Et je pense que dans le fond, l'innovation, l'invention se nourrissent davantage effectivement d'improvisation que d'adaptation. L'adaptabilité, c'est qu'une des solutions possibles. On peut essayer de faire autre chose, inventer, se projeter, changer de braquet, voilà.
Philippe Gabillier, depuis des dizaines de milliers d'années, le souci de l'avenir reste l'une de nos principales préoccupations. Nous consultons depuis la nuit des temps des oracles, des sorciers, des voyants, des prophètes, des prévisionnistes aujourd'hui, des futurologues, des prospectivistes comme vous. Oui, alors, c'est vrai que dans les désirs fondamentaux de l'être humain, il semble qu'il y ait eu, ce qu'on peut comprendre, hein, le souci de savoir, de comprendre de quoi demain allait être fait. Et certes, au départ, la divination, sous toutes ses formes d'ailleurs, hein, on voit les premières traces vraiment de systèmes divinatoires structurés, c'est autour de 3500 avant notre ère, c'est à Babylone, chez les Sumériens. Il y a quelques traces en Chine, mais on n'est pas tellement sûr de la date. Il y a cette idée qu'il existerait des individus, les devins, ils disposent d'un code de lecture de la réalité qui leur permet d'avoir un accès au futur. Que ça s'appelle les entrailles des animaux, les osselets, les cartes à jouer, les tarots, les astres, bon. Et alors bien évidemment, la modernité arrivant, on a dit, oui, mais attends, faut être un petit peu sérieux, on va sortir de cette superstition et on va passer à la rationalité. Et donc, en fait, on a continué à faire exactement la même chose, mais maintenant, on a des experts, des devins qui lisent dans les statistiques, la recherche opérationnelle, les probabilités, etc. Mais fondamentalement, l'idée, après c'est un grand débat philosophique, mais l'idée que on puisse connaître l'avenir est une absurdité de mon point de vue philosophique. C'est-à-dire que personne n'a jamais été demain matin, c'est ce qui fait à la fois le tragique et la beauté de toute vie. En revanche, c'est pas parce qu'on ne peut pas savoir de quoi demain sera fait, qu'on n'a pas intérêt à essayer de le faire quand même, parce qu'on se rend compte dans la pratique, les prospectivistes le savent, quand quelqu'un vous parle du futur, il est en train, sans s'en rendre compte, de vous parler de la façon dont il voit le présent, et donc ça donne des clés de lecture, je dirais, de son réel, qui sont vraiment, qui ont beaucoup de valeur.
Dans votre livre, vous expliquez qu'anticiper ce que va être sa vie, ce n'est pas tenter de deviner ce qu'elle sera demain, c'est avant tout jeter un regard différent sur son présent, et je vous cite, c'est déceler en toute occasion, en tout lieu, les germes plus ou moins prévisibles de l'avenir, c'est capter avec bonheur et lucidité les surprises inattendues du réel.
Oui, et que ces surprises d'ailleurs soient ou ne soient pas. Et je crois que d'ailleurs que l'un des éléments clés de l'équilibre, me semble-t-il, et j'ai longtemps cru, moi, faisant du développement personnel, en travaillant en entreprise, que voilà, pour être bien, il fallait savoir où on allait, fallait avoir des objectifs, des buts, etc. Et autour de 50 ans, j'ai arrêté. Et je me suis dit, mais non, ça fait 30 ans que je suis sur une illusion. En revanche, il faut avoir des désirs, des attentes, et créer les conditions pour accueillir un certain nombre de choses. Mais plus j'avance, plus j'ai des doutes sur l'efficacité et la puissance du plan d'action, de l'objectif, des étapes, etc.
Quelle est la différence entre l'avenir et le futur ? C'est pas qu'une question sémantique.
Non, c'est pas qu'une question sémantique. Moi, je pense fondamentalement que le futur, on n'en a qu'un. C'est-à-dire, c'est ce qui va m'arriver. J'ai un futur, ça sera l'objet de ma biographie le plus tard possible, et c'est l'enchaînement des événements tels qu'ils seront. C'est inconnaissable, de mon point de vue, ou alors ça serait par révélation, dans ce cas c'est autre chose, hein. On est sur un autre champ. Voilà. Donc le futur, en soi, c'est quelque chose qui est insaisissable. L'avenir, c'est différent. L'avenir, c'est l'ensemble des futurs qui vivent en moi aujourd'hui, et qui font que je vais avoir envie justement d'élaborer des projets, peut-être d'écouter mes désirs, dans l'instant présent. Et ce point de vue-là me semble tout à fait intéressant. Et je donne souvent cet exemple, les punks, le slogan punk, c'était « no future ». Mais le punk, il avait un futur comme les autres, mais il n'avait pas d'avenir, c'est autre chose. Et à cette distinction d'ailleurs entre avenir et futur, on a beaucoup de chance d'être français, parce que nous on peut la développer d'un point de vue philosophique, ce que nos amis anglo-saxons ne peuvent pas faire, puisqu'il n'y a qu'un seul mot en anglais qui est future, alors que nous avons la chance d'avoir avenir et futur, et qu'on peut essayer de développer une pensée autour de ça.
Philippe Gabillier, je rappelle que vous publiez Éloge de l'inattendu.
La notion d'éloge, en fait, elle est aussi un peu provocatrice, quoi. Je crois que c'est le romancier, je crois que c'est Christian Bobin, je crois que c'est dans La Folle Allure, où il dit dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ne prévoir que l'imprévisible et n'attendre que l'inattendu. Mais ça, je dis souvent, ça c'est un luxe de poète ou d'amoureux. Mais si on est un homme d'État ou un chef d'entreprise ou un grand chirurgien, cette notion d'inattendu n'est pas obligatoirement quelque chose qui est positif. Il faut l'accepter. Faut accepter ça aussi. Il y a le lien et le contrôle. Et on est d'autant plus apte à aimer l'inattendu qu'on a quand même au fond de soi un certain sentiment, non pas de contrôle, mais de capacité justement à rebondir, réagir, s'adapter, etc. Faire quelque chose avec l'imprévu et l'inattendu, c'est toujours se dire qu'est-ce que dans le fond ça révèle, qu'est-ce que ça a accéléré, voire au contraire, qu'est-ce que ça a arrêté brutalement en cours de route. Mais on est toujours dans cette vieille logique de la philosophie anglo-saxonne qui est dit, l'expert, c'est Aldous Huxley qui disait la vie réelle, quoi. La vie réelle, c'est jamais ce qui nous arrive. Mmh. C'est toujours ce qu'on va faire avec ce qui va nous arriver. Il y a de toute façon une transformation de l'incertitude en action. Hein. On n'est plus dans le to be or not to be, hein, on est dans le to do or not to be. C'est faire ou ne pas être, agir ou renoncer à devenir ce qu'on aurait pu devenir si l'inattendu s'était pas invité au truc. Quoi.
Philippe Gabillier, vous consacrez quelques pages à la rencontre inattendue.
Oui, qui effectivement est... Et il me semble que c'est un des éléments structurants, en tout cas des vies intéressantes. Mmh. Voilà. Cette notion d'... Alors, après, il y a des bonnes rencontres inattendues, il y a des mauvaises rencontres inattendues, ça c'est sûr et certain. Moi j'aime bien beaucoup cette phrase, je crois que c'est Saint-Exupéry qui disait « La rencontre de la réussite passe souvent par la réussite des rencontres, d'une façon générale. » Mais c'est vrai que pour que ces rencontres puissent avoir lieu, encore faut-il, paradoxalement, pour que l'inattendu puisse avoir lieu, encore faut-il l'attendre. Ou plutôt, faut-il s'y attendre. Se dire, tiens, il va m'arriver, cette soirée, j'ai pas envie d'y aller, de toute façon, j'y connais personne. Mmh. Alors, on devrait dire, mais s'il y a vraiment une raison pour laquelle je dois aller à cette soirée, c'est parce que je n'y connais personne. À condition d'y arriver dans une disposition d'esprit, qui soit justement celle de who knows, quoi. Qui sait? Peut-être qu'il se passera des choses. Donc, il y a un problème, effectivement, à la fois d'intention, et d'attention, et d'être attentif à ce qui se passe autour de soi. Pour moi, d'ailleurs, c'est le triptyque magique. Hein, c'est intention, je dirais être vraiment désireux que des choses se passent, même si je ne sais pas quoi. Attention, je vais déployer mes antennes. Et connexion, je ne pourrais pas le faire tout seul, de toute façon. Donc, si j'ai les trois, si j'arrive à tenir les trois, c'est bien le diable s'il ne se passe pas quelque chose.
Alors, j'ai relevé une jolie phrase dans votre livre. « Nul ne peut, par définition, savoir quand l'inattendu frappera à sa porte, mais on peut au moins avoir dressé le couvert et préparé la chambre. »
Voilà, c'est ce que j'appelle la philosophie du Airbnb. Voilà, absolument.
Philippe Gabillier, pouvez-vous partager des outils pour apprivoiser l'inattendu ?
Il me semble qu'il y a un entraînement au quotidien autour de la notion d'improvisation. Puisque, voilà, je ne dis pas que la planification et la prévision s'opposent, mais enfin, elles sont quand même en polarité avec l'improvisation. Et je dirais, qu'est-ce qui caractérise, moi je travaille avec des jeunes qui sont dans des ligues d'improvisation. Quand on fait de l'improvisation théâtrale, par exemple, je trouve que c'est une métaphore de la vie passionnante qui est extraordinaire. C'est-à-dire que quand on est en improvisation, il ne faut pas jouer que son jeu, il faut surfer sur ce que l'autre dit ou ne dit pas. Il faut bien sûr avoir une idée en tête, mais être capable d'en changer rapidement. Et je pense qu'il y a des situations de vie, justement quand on les maîtrise très très bien, où on peut parfois se donner le droit, dire tiens, comme je maîtrise totalement, donc si par hasard ça tourne mal, je saurais récupérer. Mais là, ce jour-là, dans cette réunion-là, je vais improviser. Mais je n'improvise pas à partir de rien. Mon expérience, etc. Mais je vais improviser. Je vais lâcher le contrôle, en tout cas en partie. Ça ne veut pas dire c'est le lâcher prise totale. Non, non, parce que lâcher prise totale, ce n'est pas possible. C'est dans un domaine dans lequel je suis expert, etc. Mais je vais me laisser pas faire ce qui était prévu. Je vais changer au dernier moment le plan que j'avais moi-même décidé de suivre. Je vais me mettre dans un espèce de déséquilibre créatif assumé. Et là aussi, c'est quand même bien le diable s'il ne se passe pas quelque chose.
C'est d'agir en explorateur.
Agir en explorateur et vraiment réveiller l'improvisateur intérieur. Mmh. Voilà.
Et également, dans votre livre, vous nous conseillez de nous appuyer sur le temps long. Expliquez-nous. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous parlez de futur socle. Pouvez-vous nous expliquer cette notion-là, en fait, très importante?
Pour moi, c'est une notion essentielle parce que nous sommes picouser littéralement l'accélération du monde, le temps qui passe, etc. Or, ce qui est aussi très très intéressant, je trouve, dans nos vies, c'est ce qui n'a pas vocation à changer, ce qui ne changera pas. Qu'est-ce qui était vrai pour moi hier, qui est toujours vrai pour moi aujourd'hui, et je fais l'hypothèse que ça sera toujours vrai pour moi demain. Ça peut être un lieu de vie, ça peut être un système de valeurs, ça peut être plein de choses, mais je pense que nous sommes aussi des êtres enracinés, et que plus on est, dans le fond, enraciné, plus on va avoir un rapport, je trouve, très positif à l'improvisation, le rapport à l'inattendu. Et d'ailleurs, je pense vraiment que la peur, par exemple, la peur du futur, lorsque c'est une peur vraiment panique, qui peut même amener à mettre l'autre à distance, etc. La peur du futur, paradoxalement, elle est souvent le signe d'un manque de racines. Les gens qui ont peur de demain, ils se souviennent pas toujours d'où ils arrivent exactement. Et c'est vrai que, je pense en développement personnel, là aussi, je dis moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, je demandais toujours à mes gens en priorité, qu'est-ce que vous voudriez faire, votre objectif c'est quoi. J'ai arrêté de dire ça depuis des années. Maintenant, je dis On va démarrer, on se voit pour la première fois aujourd'hui. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pourriez me dire où vous êtes aujourd'hui et comment c'est vous qui vous y êtes mené? Et après, on essaie, à partir de là, on pourra peut-être commencer à discuter de l'inattendu pour demain.
Christophe André.
Alors, nous parlons aujourd'hui de retrouver le goût de l'inattendu. Bah, c'est une excellente idée et je vois au moins trois bonnes raisons à cela. L'inattendu est inévitable, il est désirable et il est favorable. L'inattendu est inévitable, bien sûr, et on peut même dire que vivre, c'est s'attendre constamment à de l'inattendu. Que notre vie est la somme de tous les efforts que nous faisons pour prévoir, planifier et construire, et que sur tous ces efforts s'abat régulièrement la pluie de l'inattendu. Certains donnent à l'inattendu le nom de hasard ou de destin, et chacun sait qu'il peut prendre des visages tantôt joyeux et tantôt douloureux. Inévitable, l'inattendu est aussi désirable, car les routines et les habitudes nous sécurisent, nous reposent, certes, mais nous ennuient aussi, nous endorment, nous amollissent. L'inattendu est alors comme un piment, une épice dans la fadeur du quotidien, un pincement qui nous tire de notre somnolence face à la vie répétitive. L'inattendu est ainsi un besoin souvent vital dans la vie des groupes et surtout des couples. Désirable, inévitable, l'inattendu est enfin favorable pour notre mental, car il nous contraint à la créativité, la flexibilité, l'ouverture, l'adaptation constante au changement de cap non planifié. Cette flexibilité a un coût, c'est le stress, ou parfois l'anxiété quand la pression de l'inattendu devient massive. C'est pourquoi il est inutile d'idéaliser l'inattendu, de le présenter comme un bien en soi. Beaucoup d'entreprises, dans leur jargon si particulier, ont ainsi valorisé depuis quelques années la vertu dite d'agilité. Il faut être agile, etc., etc. On se demande parfois si ça n'est pas pour mieux faire avaler aux salariés un certain nombre d'incohérences de management ou de mauvaises planifications. Mais c'est une autre histoire. Malgré toutes ces vertus, l'inattendu n'est pas supérieur à l'attendu. Les deux sont nécessaires à nos vies. Le dérangement de l'inattendu et le confort de l'attendu. Ce sont nos sociétés ultra-planificatrices qui tentent de raréfier, d'écarter l'inattendu, qui le rendent ainsi plaisant à nos yeux. Nos ancêtres, aux vies beaucoup plus incertaines et menaçantes que les nôtres, en avaient leur dose et étaient de ce fait moins friands que nous de l'imprévu, et moins friands que cet imprévu déboule dans leur quotidien, car ils prenaient souvent un visage douloureux. Et puis, une face sombre du goût pour l'inattendu, du moins lorsqu'il concerne des événements plaisants, c'est qu'il témoigne parfois de notre moderne incapacité à attendre, de notre addiction au divertissement, au changement, à la nouveauté, de notre besoin que tout nous arrive tout de suite. Alors, pour parfaire nos équilibres intérieurs, cultivons donc aussi peut-être une sagesse de l'attente, telle que la suggèrent les derniers mots du roman d'Alexandre Dumas, « Le Comte de Monte-Cristo ». Attendre et espérer. Attendre et espérer. Voilà qui pourrait être un beau programme pour l'incertaine année qui vient. S'attendre à l'inattendu, espérer qu'il ait un visage clément et surtout continuer de vivre et d'agir aussi joyeusement et énergiquement que possible.
Les choses vues de Christophe André et Philippe Gabillier qui a pris beaucoup de notes.
Absolument. Mais comme toujours quand Christophe parle, de toute façon. Et je trouve particulièrement pertinente cette idée de la non-idéalisation de l'inattendu. On ne peut pas non plus passer son temps. Quelqu'un qui va chercher la difficulté, c'est quelqu'un qui voudra toujours être dans l'inattendu, à la fois dans son rapport à lui ou à elle-même ou aux autres, devient donc quelqu'un qui est fondamentalement imprédictible vis-à-vis des autres. Et tout ça ne favorise pas obligatoirement une vie sociale équilibrée.
Philippe Gabillier, vous nous invitez à sortir de notre zone de confort.
J'invite à sortir de la zone de confort dès l'instant où elle devient confortable, en fait, voilà. Parce que la zone de confort est...
Ça veut dire quoi exactement, zone de confort?
En gros, enfin, moi, de mon point de vue, c'est une zone dans laquelle on a appris, je dirais, à vivre de façon, je dirais, assez, comme son nom l'indique, confortable. C'est une zone généralement connue, de zone, il y a du connu. Je connais les règles, je connais les points de repère, c'est je crois que je contrôle. Et puis, globalement, c'est rarement révolutionnaire, hein, une zone de confort, donc c'est aussi assez, il y a de la conformité. Mais il arrive effectivement que cette zone de confort devienne une zone inconfortable parce qu'on prend conscience de la routine, la frustration, tout d'un coup ce qu'on ne peut pas faire ou ce qu'on ne fait plus prend plus de poids que ce qu'on fait même si ça nous plaît, et les choses commencent à bouger de cette façon-là.
Marie-Laure Zonshine, de Femmes Actuelles.
Oui, en début d'émission, on parlait du cygne noir, alors je me propose de parler d'un autre animal à plumes, c'est l'autruche. Vous en parlez dans votre ouvrage en disant que c'est vraiment l'attitude face à l'inattendu qu'il faut essayer vraiment d'éviter, parce que procrastiner, refuser l'évidence, nier les faits, on n'y arrivera pas.
Non, effectivement, c'est probablement l'attitude qui, vis-à-vis de l'inattendu en tout cas, est la seule attitude qui peut être souvent dysfonctionnelle, surtout voilà, parce que en plus ça fait perdre du temps. Il y a aussi cette idée que voilà, on vit, c'est la notion de finitude, on vit dans un univers temporel qui est fini. Alors bon, Woody Allen disait j'ai bien l'intention de vivre éternellement et jusqu'à présent tout se passe comme prévu, mais et donc cette notion d'autruche, elle dit voilà, il y a des choses que je ne veux pas les voir, je ne me donne pas le droit de les regarder, et donc ne me donnant pas le droit de les regarder, je suis en train de laisser passer probablement un certain nombre de choses, et je crois que je suis dans une zone de confort alors que je suis que dans une zone de cécité.
Marie-Laure Zonshine, sur la zone de confort,
pour
justement.
Pour mettre un premier pied dehors cette zone, parce que vous parliez de l'expérience tout à l'heure, mais enfin, elle n'est pas à la portée de tout le monde non plus, on n'a pas forcément ce recul sur soi.
Alors,
pour
je pense qu'au départ, ce n'est pas de l'ordre de la pensée, c'est de l'ordre du ressenti. Moi, je pense que là, c'est comme un vêtement ou une chaussure qui n'est pas exactement la taille ou un vêtement. Beaucoup de gens vous diront, il y a des petits quelque chose qui, dans leur vie quotidienne, disent oui, mais je suis très heureux en fait, je suis très heureux, j'ai une famille formidable, mes enfants, je les adore, mon épouse ou mon mari, c'est merveilleux, j'ai des amis. Néanmoins,
il y a une étiquette qui gratte dans le dos.
Ouais, il y a un truc qui gratte. Et tant qu'on n'a pas réussi à mettre des mots, alors soit on le met par soi-même, soit on fait appel à un tiers, mais tant qu'on n'a pas mis des mots sur ça, on ne peut même pas commencer à envisager le fait d'en sortir.
Christophe André, hors antenne, vous évoquiez des petits exercices assez rigolos à faire pour justement sortir de sa zone de confort, mettre l'inattendu au menu de sa vie de tous les jours.
Oui, c'est des exercices qu'on propose volontiers aux patients qui ont une anxiété généralisée, qui est une forme d'allergie à l'incertitude, à l'inattendu, qui leur semble porteur de danger. Et on leur prescrit, par exemple, de partir à l'aventure, de partir en week-end, comme ça, en couple, sans avoir raison. Sans trop savoir où ils vont et de voir ce que ça donne. Et parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal. Mais l'idée, c'est qu'on survit toujours à ces histoires-là. Ou d'inviter plein de copains sans rien avoir préparé à dîner, faire semblant d'avoir oublié. Donc on commande des pizzas, on fait des pâtes et on s'aperçoit que l'important, c'est pas ce qu'on a dans l'assiette, mais ce sont les amis, la rencontre, la joie qui va sortir de cet inattendu et de cet imprévu.
Pour terminer, l'une des voies du bonheur, c'est faire de la place à l'inattendu, Philippe Gabillier.
Si je voulais raisonner en psychologue, je dirais qu'en tout cas, ne laisser aucune place à l'inattendu dans sa vie, c'est se condamner au malheur.